Radio Prague, les informations.
Le congrès du Parti socialiste européen aura lieu à Prague. 330 employés des transports urbains pragois seront licenciés en janvier prochain. Début de la vaccination contre la grippe porcine. Plus de 1200 délégués du Parti socialiste européen prendront part au congrès du parti qui aura lieu à Prague les 7 et 8 décembre prochains. Les délégués y éliront la nouvelle direction de leur parti. Parmi les participants, il y aura l'économiste américain renommé lauréat du prix Nobel, Joseph Stiglitz, les premiers ministres de Grande-Bretagne, d'Espagne et de Slovaquie, et plusieurs présidents de parlement et membres de la Commission européenne. La compagnie des transports urbains de Prague licenciera en janvier 330 employés travaillant actuellement en grande partie dans les ateliers de réparation. C'est ce qu'a déclaré lors des négociations du comité des transports de la municipalité de Prague le directeur de la compagnie des transports urbains Martin Dvořák. Selon ses paroles, la direction de la compagnie s'est mise d'accord sur cette question avec les syndicats. La vaccination contre la grippe pandémique, appelée communément porcine, ne démarre que lentement en République tchèque. Selon l'avocat de l'association des praticiens, Jakub Uher, les médecins risquent de graves problèmes à cause de la vaccination. Ils sont obligés de vacciner, mais au cas où la vaccination provoquerait des effets secondaires importants, ils en assumeraient la responsabilité. Par contre, le vice-ministre de la Santé, Marek Schneider, souligne que c'est l'État qui se porte garant de la vaccination et assume la responsabilité d'éventuels effets secondaires. Le commandant du 15e contingent de l'armée tchèque au Kosovo, Jiří Kivala, ne pourra pas exercer sa fonction pendant l'enquête sur l'affaire d'un soldat tchèque blessé dans la ville de Chajkovac. Une information du ministre tchèque de la Défense, Martin Bartak. Le soldat qui a probablement tiré sur son collègue a été temporairement mis hors service. Le soldat blessé est soigné dans un hôpital de camp américain et son état est stabilisé. Le gouvernement tchèque a exprimé ses regrets pour la stérilisation de certaines femmes, dont la majorité des femmes roms, qui étaient contraires à la loi. Des mesures préparées devraient éviter que de tels cas se répètent. Une déclaration du ministre tchèque en charge des droits de l'homme et des minorités, Michael Kotsap. Selon le Centre des sondages d'opinion, pour la première fois depuis la chute du communisme en novembre 1989, les citoyens tchèques manifestent une plus grande confiance au gouvernement qu'au président de la République. 71% des personnes interrogées ont déclaré leur confiance vis-à-vis du cabinet Jan Fischer. Météo. Lundi, le jour de fête des Clémentes, le ciel en République tchèque est nuageux, à couvert avec des précipitations par endroits. Les températures diurnes ne dépassent pas 12 degrés. Un vent fort souffle sur l'ensemble du pays. Mardi, le ciel en Tchéquie sera couvert à nuageux et les températures se situeront entre 8 et 12 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Prague. Tout de suite, les principaux titres de ce début de semaine. Ce week-end se déroulait le congrès du parti de centre-droite, l'ODS. Finalement, les voix critiques de l'actuel chef du parti, Mirek Topolánek, n'ont pas eu raison de lui. Alena Gabertová reviendra sur le ticket une fois de plus gagnant de l'ancien Premier ministre. C'est à l'âge de 71 ans qu'est mort à Prague l'ancien juge de la Cour constitutionnelle et un des auteurs de la Constitution tchèque, Vojtěch Cepl. Jarka Gisubelová reviendra sur son parcours. Et puis on fera un tour par le Festival du film français. Dans l'émission d'aujourd'hui, le réalisateur indépendant Philippe Fernandez. Bonne écoute de ce programme. À plusieurs reprises, la position de Mirek Topolánek, le chef de l'ODS, le parti civique démocrate, au sein de son propre parti, semblait très fragile, sinon intenable. Et une nouvelle fois, il a su maintenir sa position. Plus d'informations avec Alena Gebertova.
La tête de Mirek Topolánek va-t-elle tomber comme le souhaitent ses adversaires? C'est le congrès de l'ODS qui s'est déroulé pendant ce week-end qui devait donner la réponse et qui a finalement dévoilé que cet ex-premier ministre jouissait du soutien de la majorité des membres du parti qu'il dirige depuis 7 ans. Il a témoigné en outre d'un manque de volonté d'accéder à un tel remaniement radical après de 6 mois avant les prochaines élections législatives. Les voix critiques les plus fortes à l'adresse de l'actuel chef de l'ODS sont à Prague et au niveau régional. Cette aile rebelle de ce principal parti de droite n'a cependant pas réussi à initier un vote de motion de censure à l'égard de Topolánek ou à imposer une prompte convocation d'un congrès électoral. À l'issue des délibérations du congrès, moins dramatique que prévu, le chef de l'ODS a pu se déclarer satisfait.
Pour moi, ce congrès signifie une confirmation de mon mandat, en dépit des critiques qui ont été formulées et qui ont retenti au cours de son déroulement. L'adoption du concept des visions pour la prochaine période nous donne en outre le mandat de poursuivre nos préparatifs de notre programme pour l'année prochaine.
D'après les journaux de ce lundi, une présentation de vision faisait pourtant dramatiquement défaut à ses dernières rencontres au sommet des représentants de l'ODS. Celui-ci promet de s'y pencher sérieusement au début de l'année prochaine.
Samedi dernier, décédé à l'âge de 71 ans, l'ancien juge constitutionnel et co-auteur de la Constitution tchèque, Vojtěch Cepl. Autorité juridique et morale, il est devenu l'un des personnages clés de l'édification d'un état de droit après novembre 1989. Jarka Gisubelova.
C'est une grande figure de l'ordre juridique et constitutionnel, une grande autorité morale qui vient de disparaître, a déclaré la vice-présidente de la Cour constitutionnelle, Eliška Wagnerová, pour laquelle cette perte sera vivement ressentie.
Vojtěch Cepl était le plus grand vulgarisateur de l'idée de rule of law, de domination du droit sur le pouvoir, ou si vous voulez, de l'idée de l'état de droit, à laquelle il attribuait la même importance qu'à la démocratie. Bien qu'il ait souffert depuis longtemps de problèmes de santé, il est resté un vulgarisateur infatigable de ses idées.
Diplômé de la faculté de droit de l'université Charles, où il a défendu sa thèse de doctorat en 1966, Vojtěch Cepl a fait des études post-universitaires à Oxford, un séjour de recherche à Michigan. Après la révolution de velours, il donnait des conférences dans des facultés de droit britanniques, canadiennes et américaines. Jusqu'en 1993, il a enseigné le droit à Prague, avant d'être nommé juge constitutionnel par le président Václav Havel. L'une des définitions du droit est, selon Vojtěch Cepl, l'art du bien et de la justice.
Je crois que la majorité des règles du comportement humain ont été créées dans le but de permettre une entente, une vie en paix et une collaboration mutuelle.
Son mandat de juge constitutionnel terminé, Vojtěch Cepl retourne en 2003 à la faculté de droit. Ses collègues le caractérisent comme un homme ouvert et provoquant, dont les opinions n'ont jamais été conformes, mais bien tranchées. Il a aussi été très ouvert avec les médias. Ainsi, il est le premier à avoir condamné à voix haute la loi muselière. De même, il n'hésite pas à critiquer des politiciens pour ce qu'il appelait le fléchissement de la Constitution.
La Constitution est très souvent interprétée du point de vue des intérêts des différents partis. On voit très souvent qu'elle est contournée, alors que ce qu'il faudrait, c'est de chercher le sens, le fonctionnement de ces stipulations et règlements.
Étant avant tout un brillant orateur, Vojtěch Cepl n'a laissé que très peu d'œuvres écrites. Pour ce qui est de son legs, il faudra se référer avant tout à ses nombreuses interviews, sa voix profonde nous parlant aussi des émissions « L'homme et la démocratie » préparées par lui pour la 6e chaîne de la radio tchèque.
Vous le savez, depuis le 19 novembre et jusqu'à mercredi, Prague vit au rythme du 12e festival du film français. Parmi les films sélectionnés dans la section compétitive du choix de la critique tchèque, Léger tremblement du paysage du réalisateur indépendant Philippe Fernandez, qui met bout à bout des tableaux de la vie de 6 personnages, parfois loufoques, en tout cas ayant tous le même besoin de s'interroger sur le monde. On écoute le réalisateur.
Je suis Philippe Fernandez, cinéaste français. Je suis enseignant aussi, en effet, dans une université. J'enseigne les arts plastiques.
Vous êtes ici au Festival du film français pour présenter votre film, Léger tremblement du paysage. Alors, j'aurais aimé un petit peu que vous me présentiez ce film que moi, je qualifierais, alors, par un jeu de mots, d'OVNI, d'objet filmé non identifié. Je le dis à dessein de cette façon-là, avec ce jeu de mots, parce qu'il est beaucoup question d'espace et de l'univers dans votre film.
C'est un très bon jeu de mots, et je le valide. Et moi, j'en utilise un autre, qui est le jeu de mots, c'est le terme de filmosophie, qui est un mot valise, qui me permet de dire que j'ai envie d'instaurer avec le spectateur une autre relation que ce que le cinéma instaure d'habitude, donc une relation qui passe pas par l'émotion ou le suspense ou le drame, mais une relation dans laquelle c'est la capacité du spectateur de réfléchir aux images et au monde qui est sollicitée.
Il n'y a pas d'histoire dans votre film, enfin pas d'histoire, j'irai pas jusque là puisqu'il y a quand même un événement pivot dans cette non-histoire. Est-ce que vous pourriez un petit peu décrire de quel événement il s'agit dans le déroulement en fait de ce film?
Donc c'est effectivement un événement, effectivement c'est le presque le degré zéro de l'histoire, quoi. C'est-à-dire un événement, mais justement il est tellement énorme qu'il parle justement de cette volonté de ne pas faire trop de narratif, de narration, par exemple, c'est le type d'événement qui donne lieu aux films hollywoodiens les plus chers, les plus spectaculaires, puisque c'est une météorite qui tombe sur Terre. Mais justement, il est traité de manière absolument anticatastrophiste, c'est-à-dire qu'on voit à peine, il n'y a même pas des vitres cassées, il y a juste un cratère dans du sable. Donc c'est une météorite qui fait très 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 peu de mal, ce qui ne cause pas donc des drames humains, parce que justement, l'intérêt est ailleurs, et dans ce qu'elle permet, cette météorite, de relier les personnages que j'ai créés à l'univers, au ciel, à l'environnement qui nous entoure, et de comprendre, de rentrer un peu dans les lois de l'univers.
Les décors sont assez particuliers. Moi, ça m'évoque alors à la fois les années 50, un peu les années 50 à la Tati à cause des enfants, et puis aussi au niveau architectural, moi j'ai l'impression de me retrouver dans un endroit qui aurait pu être créé, je sais pas, peut-être par Le Corbusier. Où avez-vous tourné? Parce que c'est quand même un endroit qui est pas identifiable. Et c'était important pour vous cette dimension un peu de retour dans le temps, dans le passé?
Alors effectivement, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ça soit pas identifiable. Ça donne une forme d'abstraction au film. On sait pas trop où ça se passe, ça pourrait se situer n'importe où. Et on sait pas non plus quand ça se passe, ça pourrait se situer aujourd'hui, plutôt dans les années 60 que dans les années 50, à cause de la voiture, des objets, de la musique. J'ai mis vraiment, en fait, très exactement, il y a beaucoup de signes dans le film qui permettent de le dater, au printemps de 68, en gros, par le fait qu'on n'est pas encore allé sur la Lune, puisque les enfants en parlent. Donc on est entre 68 et 69. Ça, c'est important pour moi, ce rapport au passé proche, parce que moi, j'avais donc 10 ans en 68, et donc j'ai vraiment vécu une période très particulière, qui est, qu'on entend dans la musique de Pierre-Henri du début, par exemple, qui est un rapport fasciné et positif au futur. On vivait dans un futur, enfin le futur et la technologie allaient nous apporter un monde assez extraordinaire à vivre. Et quand on était gosse à cette époque-là, on n'arrêtait pas de parler de l'an 2000.
C'est intéressant ce que vous dites justement sur ces années 60 où il y avait cette espèce d'espoir, il y avait une vision très positive finalement de ce futur et de ces futures technologies. Est-ce que maintenant qu'on a passé l'an 2000 et qu'on est en plein en fait dans le 21e siècle, est-ce que vous avez pas l'impression que finalement il y a plus ce côté positif de la vision de l'avenir et du progrès que peut nous apporter justement ces technologies par rapport aux années 60?
C'est plus complexe. Il y a c'est les deux, parce que par exemple, moi j'ai écrit ce film entre 96 et 98, donc j'ai mis une petite dizaine d'années à pouvoir le réaliser. Je pense que j'aurais peut-être pas pu l'écrire maintenant comme je pouvais l'écrire en 98, puisque moi j'étais encore dans cette en 98 dans cette fascination que les scientifiques me donnent à écrire leurs ouvrages sur leur description du monde. Bon, je le suis toujours. Mais entre-temps, il y a eu 2001. Justement, après 2000, c'est pas l'an 2000, c'est l'an 2001. Et on a une vision effectivement beaucoup plus catastrophique. Enfin, aujourd'hui, du monde, aujourd'hui, effectivement, c'est plus difficile à soutenir l'idée que le chaos est constructeur, parce qu'on vit dans un monde, effectivement, avec aussi toutes les problèmes écologiques dont on prend compte maintenant, donc on mesure maintenant, on sait qu'on est foutu. Mais tout ça est à nuancer, parce que par exemple, tous les jours, par exemple, les cellules solaires font des progrès. Donc on se dit, bon, si ça continue comme ça, c'est vrai que, de fait, naturellement, les centrales nucléaires vont être dépassées.
C'était Philippe Fernandez, invité de la 12e édition du Festival du film français. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant du déroulement du festival pendant toute la semaine. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous mardi dans Panorama avec une interview de Jean-Pierre Jeunet autour de son tout dernier film. Voilà, c'est la fin des faits et événements. Tout de suite, c'est le moment sport de la semaine et on se retrouve tout de suite après pour la rubrique musicale.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive, une rubrique dans laquelle nous vous proposons cette semaine la dernière partie de l'entretien réalisé avec Ivan Hašek, l'actuel président de la Fédération tchèque de football, dans le cadre du 20e anniversaire de la fin du régime communiste en Tchécoslovaquie. Dans les parties précédentes, l'ancien joueur et entraîneur de Strasbourg, capitaine de l'équipe nationale tchécoslovaque en 1989, nous avait raconté l'ambiance qui régnait dans le pays au moment de la révolution. Ivan Hašek avait également évoqué les conséquences que les changements politiques ont eues sur sa carrière, une politique qui était déjà présente lorsqu'il portait le maillot de l'équipe nationale.
Mais il y a quelques matchs de foot aussi contre les Russes à l'époque, qui c'était très très chaud, que tous les pays qui voudraient, que tous les Tchèques qui voudraient gagner absolument, surtout contre les Russes, parce qu'on sait bien qu'est-ce qui se passe à l'année 68, c'est pour ça que c'était tous les matchs contre les Russes, c'était avec quelque chose encore en l'air, que tout le monde sent, c'est pas seulement le match contre un pays, mais c'est le match aussi, c'était un peu le politique, même si c'était le football, le hockey, n'importe quel sport. Et c'est vrai que dans les hockey, c'était quand même l'une des plus grandes rivalités entre les Tchèques et les Russes, parce que c'était deux pays à l'époque, un des plus forts du monde. C'est tous les matchs qui étaient très très chauds. Même moi, j'adore tous les matchs regarder à la télé de l'hockey sur glace. Je sais, c'était très très chaud et on était tous les fiers si on a gagné.
Au-delà du sport, vous, alors votre carrière de footballeur, mais aussi d'entraîneur, vous a permis de voyager, de vivre dans différents pays. Alors, il n'y a pas eu seulement la France qu'on évoquait, il y a eu aussi le Japon, les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, vous êtes revenu au pays. Entre-temps, vous avez également entraîné, vous avez été fonctionnaire au Sparta de Prague. Avec le recul, quel est le sentiment que vous avez sur l'évolution du pays durant ces 20 années? Est-ce que c'est une satisfaction par rapport aux attentes que vous pouviez avoir en 1989, ou alors est-ce qu'il y a une certaine forme de déception aussi?
Écoutez, mais tout ça a évolué, mais même, c'est pas seulement en Tchéquie, mais c'est en Europe qui ça change. Il y a beaucoup de choses qui ça changé, mais je peux dire que je suis content d'être là en Tchéquie, je suis content, je suis fier d'être tchèque, je suis ici, je suis à la maison, même si c'était fantastique en France, j'étais très très content au Japon, et vraiment c'était la dernière année, ça se passe très très bien en Arabie, mais je suis ici à la maison et je suis très content que je suis là. Et je suis surtout avec la famille et je reste toujours ici. Je veux vivre toujours en Tchéquie.
La Coupe du Monde en Italie en 1990 a été la dernière compétition, le dernier grand tournoi pour la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie réunie, puisqu'après le pays ne s'est pas qualifié pour l'Euro 92 ni pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Cette fois, pour la prochaine Coupe du Monde en 2010, en Afrique du Sud, la République tchèque ne s'est pas qualifiée. C'est la Slovaquie qui s'est qualifiée. Est-ce que vous ne regrettez pas que les Tchèques et Slovaques ne soient plus ensemble pour ce qui est du football?
Mais bien sûr, sportivement, si on reste ensemble, on est plus fort que si on est tchèque avec les Slovaques. On peut construire une équipe avec les deux pays, c'est sûr qu'on... On est plus fort, mais politiquement, je pense que les gens, ils voudraient se séparer. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Je félicite l'équipe de Slovaque qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde parce que ils sont mérités d'être qualifiés. Je le félicite et j'espère que dans les prochaines Coupes d'Europe, c'est nous qu'on va être qualifiés. Et j'espère qu'avec Slovaque, peut-être on peut jouer en cette Coupe d'Europe.
Et est-ce que vous regrettez les grands matchs, par exemple, entre Slovan Bratislava, Sparta de Prague ou des déplacements aussi à Košice, qui à l'époque était aussi un grand club?
Yeah, oui, c'était le match intéressant. À l'époque, c'était chaud. Ce match, c'est vrai que il y a peut-être le première division tchécoslovaque. C'était aussi, les qualités étaient plus hauts qu'en ce moment parce que ça joue plus de gens. On était 15 millions d'habitants. Il y a quand même Slovan, Bratislava, Košice, même Prešov, Banská Bystrica. Il y a des matchs très, très difficiles pour nous, comme le Sparta, gagné en Slovaquie. Et c'est vrai que c'était à l'époque avec de toujours on est parti en Slovaquie avec le bus et tout, c'était un peu plus difficile tous les déplacements, mais c'était je pense intéressant. Moi je ne regrette pas maintenant, ça joue en Tchéquie, ça joue en Slovaque, il y a deux équipes, on ne sait jamais qu'est-ce qui va s'arriver dans 5-10 ans.
Êtes-vous heureux d'avoir vécu ce qui est encore une grande période du football tchèque pour les clubs et d'avoir vécu ce championnat? Est-ce que vous êtes heureux d'avoir pu vivre malgré tout à cette époque avant la révolution en tant que footballeur?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'est-ce qui se passait avant l'année 89. C'est ça que je sens. Il y a quelques gens qui sont nostalgiques, qui parlent à l'époque c'était mieux, mais ils ont peut-être très très vite oublié comment ça se passait. Et je pense que pour moi, et je peux vous dire que je suis très très content que ça se finisse ce régime et qu'on peut vivre maintenant avec une démocratie comme les autres pays en Europe.
C'était donc Ivan Hašek, l'actuel président de la Fédération tchèque de football. C'est la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention.
Un peu de musique quand même.
Voilà, comme promis après cette page sportive, on se retrouve pour la rubrique musicale. Dans la famille des indépendants tchèques, Home Square fait figure de dinosaure. Née en 1996, la formation est une des premières dans le pays à s'être essayée au rythme électro. Plus tard, Home Square est toujours présent, même si la formation initiale, menée par Jan Cherkitsky et Anne Klenik, est orpheline du troisième membre fondateur, Dusan Lipert, parti vers d'autres projets. Aujourd'hui, ils fonctionnent à trois, toujours avec leur chanteuse britannique Charlotte, qui a choisi dès le début de s'installer à Prague. And if I have to face another day without your bones, le dernier album avec la formation au complet et leur troisième et remonte à 2002, Taking Shape, dont sont extraits la plupart des morceaux que vous entendez, et le dernier opus, Dom Square, à trois membres, un album sorti en 2008 et qui, malgré le départ de Dusan Lipert, semble avoir remporté les suffrages des critiques tchèques. Depuis le tout début de sa carrière, Home Square est particulièrement apprécié des cinéastes. Pendant toutes ces dernières années, une bonne partie des films tchèques intègrent des compositions du groupe, que l'on pense à Samotarje, Les Solitaires, ou Divokev Tcheli, Les Abeilles Sauvages. Et individuellement, certains membres ont également participé à la bande originale de longs métrages, comme l'adaptation sur grand écran du roman de Yachim Topol, Aniel Exit, Ange Exit en français. C'est la fin des émissions en français de Radio Prague, mais l'info continue, vous le savez, sur le web au www.radio.cz. Merci de votre fidélité, à bientôt, ahoy.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.